Encyclopédie, article Inquisition. Inquisition, juridiction ecclésiastique érigée par le siège de Rome en Italie, en Espagne et en Portugal, aux Indes même, pour extirper les juifs, les maures, les fidèles et les hérétiques. Cette juridiction, après avoir pris naissance vers l'an 1200, fut adoptée par le comte de Toulouse en 1229 et confiée aux dominicains par le pape Grégoire IX en 1232. Innocent IV étendit son empire en 1251 dans toute l'Italie, excepté à Naples. L'Espagne s'y vit entièrement soumise en 1448 sous le règne de Ferdinand et d'Isabelle. Le Portugal l'adopta sous Jean III l'an 1557, conformément au modèle reçu par les Espagnols. 12 ans auparavant, en 1545, Paul III avait formé la congrégation de ce tribunal sous le nom du Saint-Office, et Sixte V confirma cette congrégation en 1588. Ainsi, l'Inquisition, relevant toujours immédiatement de la cour de Rome, fut plantée, malgré plusieurs contradictions, dans un grand nombre d'États de la chrétienté. Parcourons tous ces faits avec M. de Voltaire, et dans un plus grand détail, mais ça certainement n'ennuiera personne. Le tableau qu'il en a tracé de main de maître, on ne saurait trop en multiplier les copies. Ce fut dans les guerres contre les Albigeois que vers l'an 2200, le pape Innocent III érigea ce terrible tribunal qui juge les pensées des hommes et, sans aucune considération pour les évêques, arbitre naturel dans les procès de cette doctrine, la cour de Rome en commit la décision à des dominicains et à des cordeliers. Ces derniers inquisiteurs avaient le droit de citer tout hérétique, de l'excommunier, d'accorder des indulgences à tout prince qui exterminerait les condamnés, de réconcilier l'Église, de taxer les pénitents et de recevoir d'eux en argent une caution de leur repentir. La bizarrerie des événements qui mettent tant de contradictions dans la politique humaine fit que le plus violent ennemi des papes fut le protecteur le plus sévère de ce tribunal. L'empereur Frédéric II, accusé par le pape tantôt d'être mahométan, tantôt d'être athée, crut se laver du reproche en prenant sous sa protection les inquisiteurs. Il donna même 4 édits à Pavie, en 1244, par lesquels il mandait aux juges séculiers de livrer aux flammes ce que les inquisiteurs condamneraient comme hérétiques obstinés et de laisser dans une prison perpétuelle ce que l'Inquisition déclarerait repentant. Frédéric II, malgré cette politique, n'en fut pas moins persécuté, et les papes se servirent depuis contre les rois de l'Empire des armes qu'il leur avait données. En 1255, le pape Alexandre III établit l'Inquisition en France, sous le roi de Saint-Louis. Le gardien des cordeliers de Paris et le provincial des dominicains étaient les grands inquisiteurs. Ils devaient, par la bulle d'Alexandre III, consulter les évêques, mais il n'en dépendait pas. Cette étrange juridiction donnée à des hommes qui font vœu de renoncer au monde indigna le clergé et les laïcs au point que bientôt le soulèvement de tous les esprits de la salle des moines qu'un titre inutile. En Italie, les papes avaient plus de crédit parce que tout désobéis qu'ils étaient dans Rome, tout éloignés qu'ils en furent longtemps, Ils étaient toujours à la tête de la faction guelfe contre celle des gibelins. Ils se servirent de cette inquisition contre les partisans de l'Empire, car en 1302, le pape Jean XXII fut proclamé par des moines inquisiteurs contre Matthieu Visconti, seigneur de Milan, dont le crime doit être attaché à l'empereur Louis de Bavière. Le dévouement du vassal à son suzerain fut déclaré hérésie. La maison d'État d'Est, celle de Malatesta, furent traitées de même pour la même cause. Et si le supplice ne suivit pas la sentence, c'est qu'il était plus aisé au pape d'avoir des inquisiteurs que des armées. Plus ce tribunal prenait de l'autorité, et plus les évêques, qui se voyaient enlever un droit qui semblait leur appartenir, le réclamaient vivement. Cependant, ils n'obtinrent des papes que d'être les assesseurs de moines. Sur la fin du XIIIe siècle, en 1289, Venise avait déjà reçu l'Inquisition, avec cette différence que, tandis qu'ailleurs elle était toute dépendante du pape, elle fut dans l'état de Venise toute soumise au Sénat. Il prit la sage précaution d'empêcher que les amendes et la confiscation n'apparaissent pas aux inquisiteurs. Il espérait par ce moyen modérer leurs ailes, en leur ôtant la tentation de s'enrichir par leur propre jugement. Mais, comme l'envie de faire valoir les droits de son ministère est chez les hommes une passion aussi forte que l'avarice, les entreprises des inquisiteurs obligèrent le Sénat, longtemps après avoir sauvé au XVIe siècle, d'ordonner que l'Inquisition ne pourrait jamais faire de procédé sans l'assistance de 3 sénateurs. Par ce règlement, et par plusieurs autres aussi politiques, l'autorité de ce tribunal fut anéantie à Venise, à force d'être élu dès un royaume où il semblait que l'Inquisition de s'établir avec plus de facilité et de pouvoir est précisément celui où elle n'a jamais eu d'entrée. J'entends le royaume de Naples. Les souverains de cet État et ceux de Sicile se croyaient en droit, par les concessions des papes, d'y jouir de la juridiction ecclésiastique. Le pontife romain et le roi, se disputant toujours à eux, qui nommerait les inquisiteurs, on n'en nomme à point, et les peuples profitèrent pour la première fois des querelles de leurs maîtres. Et si finalement l'inquisition fut autorisée en Sicile, après l'avoir été en Espagne par Ferdinand et Isabelle en 1478, elle fut en Sicile, plus encore qu'en Castille, un privilège de la couronne, et non un tribunal romain, car en Sicile, c'est le roi qui est pape. Il y avait déjà longtemps qu'elle était reçue dans Aragon, et il languissait, ainsi qu'en France, sans fonction, sans ordre, et presque oubliée. Mais après la conquête de Grenade, ce tribunal déploya dans toute l'Espagne cette force et cette rigueur que jamais n'avaient eu les tribunaux ordinaires. Il faut que le génie des Espagnols eût alors quelque chose de plus impitoyable que celui des autres nations. On le voit par les cruautés réfléchies qu'ils commirent dans le Nouveau Monde. On le voit surtout ici par l'excès d'atrocité qu'ils portèrent dans l'exercice d'une juridiction où les Italiens, ses inventeurs, mettaient beaucoup de douceur. Les papes avaient érigé ces tribunaux par politique, et les inquisiteurs espagnols y ajoutèrent la barbarie la plus atroce. Lorsque Mahomet II eut subjugué la Grèce, lui et ses successeurs laissèrent les vaincus vivre en paix dans leur religion. Et des Arabes maîtres de l'Espagne n'avaient jamais forcé les chrétiens régicides à recevoir le mahométisme. Mais, après la prise de Grenade, le cardinal Ximénez voulut que tous les Maures fussent chrétiens, soit qu'il fût porté par zèle, soit qu'il écoutât l'ambition de camper un nouveau peuple, ce coup à sa crumatie. C'était une entreprise directement contraire au traité par lequel les Maures s'étaient soumis. Et il fallut du temps pour la faire réussir. Ximénez, néanmoins, voulut convertir les Maures aussi vite qu'on avait pris Grenade. On les prêcha, on les persécuta, ils se soulevèrent, on les soumit et on les força de recevoir le baptême. Ximénez fit donner à 50 000 d'entre eux ce signe religion à laquelle ils ne croyaient pas. Les Juifs, compris dans le traité fait avec les rois de Grenade, n'éprouvèrent pas plus d'indulgence que les Maures. Il y en avait beaucoup en Espagne. C'était ce qu'ils sont partout ailleurs, les courtiers du commerce. Cette profession, bien loin d'être turbulente, ne peut subsister que par un esprit pacifique. Il y a plus de 28 000 Juifs autorisés par le pape en Italie. Il y a près de 280 synagogues en Pologne. La seule ville d'Amsterdam possède environ 15 000 Hébreux, quoiqu'elle puisse assurément faire le commerce sans leur secours. Les Juifs ne paraissaient pas plus dangereux en Espagne, et les taxes qu'on pouvait leur imposer étaient des ressources assurées pour le gouvernement. Il est donc bien difficile de pouvoir attribuer à ce sage politique la persécution qu'ils essuyèrent. L'Inquisition procéda contre eux et contre les musulmans. Combien de familles mahométanes et juives aimèrent mieux alors quitter l'Espagne que de soutenir la rigueur de ce tribunal? Et combien Ferdinand et Isabelle perdirent-ils de sujets? C'était certainement ceux de leur secte les moins à craindre, puisqu'ils préféraient la fuite à la révolte. Ce qui restait, feignit d'être chrétien. Mais le grand inquisiteur Torquemada fit regarder à la reine Isabelle tous ces chrétiens déguisés comme des hommes dont il fallait confisquer les biens et proscrire la vie. Ce Torquemada dominicain, devenu cardinal, donna au tribunal de l'Inquisition espagnole cette forme juridique qu'elle conserve encore aujourd'hui et qui est opposée à toutes les lois humaines. Il fit pendant 14 ans le procès à plus de 80 000 hommes et en fit brûler 5 ou 6 000 avec l'appareil dans les plus augustes fêtes. Tout ce qu'on nous rapporte des peuples qui ont sacrifié des hommes à la divinité n'approche pas des exécutions accompagnées de cérémonies religieuses. Les Espagnols n'en conçurent pas d'abord assez d'horreur, parce que c'étaient leurs anciens ennemis et des Juifs qu'on sacrifiait. Mais bientôt, eux-mêmes devinrent victimes. Car lorsque les dogmes de Luther éclatèrent, le peu de citoyens qui fut soupçonné de les admettre fut immolé. La force des procédures devint un moyen infaillible de perdre qui on voulait. Voici quelle est cette forme. On ne confronte pas les accusés aux délateurs. Il n'y a point de délateurs qui ne soit écouté. Un criminel flétri par la justice un enfant, une courtisane, sont des accusateurs graves. Le fils peut déposer contre son père, la femme contre son époux, le frère contre son frère. Enfin, l'accusé est obligé d'être lui-même son propre délateur, de deviner et d'avouer le délit qu'on lui suppose et que souvent il ignore. Cette procédure inouïe jusqu'alors et maintenue jusqu'à ce jour fit trembler l'Espagne. La défiance s'empara de tous les esprits. Il n'y eut plus d'amis, plus de société. Le frère craignit son frère, le père son fils, l'épouse son époux. C'est de là que le silence est devenu le caractère d'une nation née avec toute la vivacité qu'on donne au canal chaud et fertile. Les plus adroits s'empressèrent d'être les archers de l'Inquisition sous le nom de ses familiers, aimant mieux être des satellites que de s'exposer au supplice. Il faut encore attribuer à l'établissement de ce tribunal cette profonde ignorance de la saine philosophie où l'Espagne demeura toujours plongée, tandis que l'Allemagne, le Nord, l'Angleterre, la France, la Hollande, l'Italie même ont découvert tant de vérités et ont élargi la sphère de ses connaissances. Descartes philosophait librement dans sa retraite en Hollande, dans le temps que le grand Galilée, à l'âge de 80 ans, gémissait dans les prisons de l'Inquisition pour avoir découvert le mouvement de la terre. Jamais la nature humaine n'est si avilie que quand l'ignorance est armée du pouvoir. Mais les tristes effets de l'Inquisition sont peu de choses en comparaison de ces sacrifices publics qu'on nomme auto da fé, acte de foi, et des horreurs qui les précèdent. C'est un prêtre en surplis, c'est un moine voué à la charité et à la douceur, qui fait dans de vastes et profonds cachots appliquer les hommes aux tortures les plus cruelles. C'est ensuite un théâtre dressé dans une place publique où l'on conduit au bûcher tous les condamnés à la suite d'une procession de moines et de confréries. On chante, on dit la messe et on tue des hommes. Un Asiatique qui arrivait à Madrid le jour d'une telle exécution ne saurait si c'est une réjouissance, une fête religieuse, un sacrifice ou une boucherie. Et c'est tout cela ensemble. Les rois, dont d'ailleurs la seule présence suffit pour donner grâce à un criminel, assistent à ce spectacle sur un siège moins élevé que celui de l'enquêteur. Et voyant entrer leur sujet dans les flammes, on reprochait à Montezuma d'immoler des captifs à ses dieux. Qu'aurait-il dit s'il avait vu un auto da fé? Ces exécutions sont aujourd'hui plus rares qu'autrefois. Mais la raison, qui perce avec tant de peine quand le fanatisme est sur le trône, n'a pas pu les abolir encore. L'Inquisition ne fut introduite dans le Portugal que vers l'an 1557. Et même quand ce pays n'était point soumis aux Espagnols, elle essuya d'abord toutes les contradictions que son seul nom devait produire. Mais enfin, elle s'établit et sa jurisprudence fut la même à Lisbonne qu'à Madrid. Le grand inquisiteur est nommé par le roi et confirmé par le pape. Les tribunaux particuliers de cet office, qu'il nomme saint, sont soumis en Espagne et au Portugal au tribunal de la capitale. Et l'inquisition eut dans ces deux états la même sévérité et la même attention à signaler sa puissance. En Espagne, après le décès de Charles Quint, elle osa faire le procès à l'ancien confesseur de cet empereur, à Constantin Ponce, qui périt dans un cachot et dont l'effigie fut ensuite brûlée dans un auto da fé. En Portugal, Jean de Braguarance, ayant arraché son pays à la domination espagnole, voulut aussi le délivrer de l'Inquisition, mais il ne put réussir qu'à priver les inquisiteurs des confiscations. Ils le déclarèrent excommunié après sa mort. Il fallut que la reine, sa veuve, les engageât à donner au cadavre une absolution aussi ridicule qu'elle était honteuse. Par cette absolution, on le déclarait coupable. Et quand les Espagnols passèrent en Amérique, ils portèrent l'Inquisition avec eux. Les Portugais l'introduisirent aux Indes occidentales immédiatement après qu'elle fut autorisée à Lisbonne. On sait l'histoire de l'Inquisition de Goa. Si cette juridiction opprime ailleurs le droit naturel, elle était dans Goa contraire à la politique. Les Portugais n'allaient aux Indes que pour y négocier. Et le commerce et l'Inquisition sont incompatibles. Si elle était reçue dans Londres et dans Amsterdam, ces villes seraient désertes et misérables. En effet, quand Philippe II l'a voulu introduire dans les provinces de Flandre, l'interruption du commerce fut une des principales causes de la Révolution. La France et l'Allemagne ont été heureusement préservées de ce fléau. Elles ont essuyé des guerres horribles de religion, mais enfin, les guerres finissent et l'Inquisition, une fois établie, semble devoir être éternelle. Cependant, le roi de Portugal a finalement secoué son joug en suivant l'exemple de Venise. Il a sagement ordonné, pour anéantir toute puissance de l'Inquisition dans ses États, premièrement, que le procureur général accusateur communiquerait à l'accusé les articles de l'accusation et le nom des témoins. Deuxièmement, que l'accusé aurait la liberté de choisir un avocat et de conférer avec lui. Troisièmement, il a de plus défendu d'exécuter aucune sentence de l'Inquisition qu'elle n'eût été confirmée par son conseil. Ainsi, les projets de Jean de Braguance ont été exécutés un siècle après par un de ses successeurs. Sans doute qu'on a imputé à un tribunal, si justement détesté, des excès d'horreur qu'il n'a pas toujours commis. Mais c'est être maladroit que de s'élever contre l'Inquisition par des faits douteux, et plus encore de chercher dans le mensonge de quoi la rendre odieuse. Il suffit d'en connaître l'esprit. Bénissons le jour où l'on a eu le bonheur d'abolir dans ce royaume une juridiction si contraire à l'indépendance de nos rois, au lieu, au bien de leurs sujets, au libéré de l'Église gallicane, en un mot de toute sage police. L'Inquisition est un tribunal qu'il faut rejeter dans tous les gouvernements. Dans la monarchie, il ne peut faire que des hypocrites, des délateurs et des traîtres. Et dans les républiques, il ne peut former que de malhonnêtes gens. Dans l'État despotique, il est destructeur. Comme lui, il n'a servi qu'à faire perdre au pape un des plus beaux fleurons de sa couronne, les Provinces Unies, et a brûlé ailleurs, aussi cruellement qu'inutilement, un grand nombre de malheureux. Ce tribunal inique inventé pour extirper l'hérésie est précisément ce que gagnent le plus tous les protestants de l'Église romaine. Il est pour eux un objet d'horreur. Ils aimeraient mieux mourir mille fois que de s'y soumettre. Et les chemises en sourcées de Saint-Office sont l'étendard contre lesquels on les verra toujours réunis. De là vient que leurs habiles écrivains proposent cette question. si les puissances protestantes ne pourraient pas se liguer avec justice pour détruire à jamais une juridiction cruelle sous laquelle gémit le christianisme depuis si longtemps. Sans prétendre résoudre ce problème, il est permis d'avancer avec l'auteur de l'Esprit des lois que quelqu'un dans sa postérité ose dire qu'au XVIIIe siècle, tous les peuples de l'Europe étaient policés. On citera l'Inquisition pour prouver qu'il en était en grande partie des barbares, et l'idée que l'on en prendra sera telle qu'elle flétrira ce siècle et portera la haine sur les nations qui adoptaient encore cet établissement odieux.